Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Contre-soirée, l'émission qui décrypte le rapport que nous, jeune génération, entretenons avec les contenus culturels. Épisode spécial aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un best-of, le premier best-of. On vous a concocté une heure qui compile les meilleurs moments de Contre-soirée, les passages les plus drôles, les plus intéressants, les plus profonds, les plus inspirés. Mehdi, Juliette, Myriam, Josué, Coraline, Marin, vous entendrez leur voix, mais également celle des invités qu'on a eu la chance de recevoir ces derniers mois. Bienvenue à vous qui nous écoutez ce lendemain de Noël 2019 sur Radio Présence, ou bien ailleurs et dans le futur en podcast, dans votre baignoire, votre cuisine, sur votre toute nouvelle enceinte connectée, dans vos écouteurs ou votre voiture. Voici le best-of de l'émission.
Contre-soirée.
Contre-soirée, c'est d'abord une soirée. Et dans une soirée, on s'amuse, on ne se prend pas au sérieux, on déconne, on ironise, on balbutie, on se trompe, on en rigole. Au détour d'une phrase, d'un jeu de mots, d'une tentative de blague, vous allez voir que l'équipe de Contre-soirée n'est pas toujours très sérieuse.
Contre-soirée.
On se souvient pas, alors même si c'est des infos importantes, hein, mais voilà.
Et Mehdi ?
Non.
Non. C'est le meilleur moment.
Oh là là, c'est non. Oh là là.
On fera des best-of pour quand on fera pas d'émission à Noël. À Noël, on fera pas forcément d'émission. On fera des best-of, bah, tu seras dans le best-of.
Okay, merci.
Et aussi être... quand tu chantes à chaque fois. Là.
Il va y être à foison, Mehdi.
Vous savez quoi, Marin, il était pas là la semaine dernière et tout.
Ah,
et quand,
pas
et quand je l'ai croisé dans le couloir, il me dit quoi, Wallon Wallon. Merci, Marin.
Contre-soirée.
Ça s'écrit comment?
M-E-R-E. YL, Meryl.
Meryl.
Baby Wallon, pardon. Voilà, c'est ça.
Incroyable.
C'est ça.
J'en veux plus. Ouf,
il arrive à imiter tout ce qu'il, tout ce qu'il conseille.
Give me Wallon, c'est Wallon, Wallon.
C'est du petit.
Allez l'écouter.
C'est une tartine de kiff. Vraiment. Restons sérieux, parlons de culture.
Contre-soirée.
Wallon, non pas Jim Wallon, Wallon, Wallon.
C'est décidé dans ces 30 dernières secondes.
Mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct, du live. Voilà.
Les aléas du direct. Bienvenue sur Radio Présence. Re-bienvenue dans Contre-soirée. Qu'est-ce que c'était ce titre-là
justement? C'était le titre que je fredonnais la semaine dernière. Wallon, Wallon.
Et
ces deux dernières minutes
de Meryl.
Voilà, donc jeune artiste martiniquaise. Wallon, Baby Wallon. Non.
Qui s'appelle Meryl.
Exactement. Baby, pas. Pas dis-moi Wallon, en fait, baby ne me dit pas de ralentir. Voilà pour la traduction. Et voilà, du créole martiniquais.
Créole martiniquais.
Et voilà.
Une bonne découverte, merci Mehdi.
Big up à cet artiste.
On peut passer à la discussion ?
On peut passer à la discussion.
Merci Mehdi, je te serre la main.
Avec plaisir.
Merci. Et
bravo
merci
pour cette interprétation, hein, vraiment.
Merci.
Contre-soirée.
Tu peux personnaliser ton vibreur en fonction des gens.
Ouais.
Recevoir un vibreur différent.
Moi, pour mes SMS, le vibreur, ça fait.
Voilà, c'était le vibreur de Grégoire. Comme ça, si vous l'entendez, vous saurez que c'est le portable de Grégoire sonne sur la table.
Exactement.
Bien sûr, ils sont tous en mode silence, donc du coup, ça marche pas.
Ah oui, bah oui, pas de vibration. Cette émission est incroyable quand même. Myriam, quelle application est-ce que tu utilises le plus? C'était français, ça? Quelle application utilises-tu le plus?
Oui. Alors.
Non, alors, c'est pas une question, on peut répondre par oui, par non.
C'était pas le moment.
Contre-soirée.
Je suis toujours en mode avion la nuit.
D'accord.
En fait, la nuit à partir de l'heure où j'ai plus envie qu'on me contacte.
Ouais, tu bloques.
Voilà, allez, bonne nuit tout le monde. Et donc à ce moment-là.
Il est MD. Ok.
Non mais. Il en peut plus, c'est pas pourquoi.
Je me fais pas rire. Alors.
Qu'est-ce qu'il y a, Mehdi?
Je prends un bon petit déj avant de continuer, d'ouvrir, de te rappeler, etc. Alors éventuellement, pendant le petit déj, si genre juste après je dois prendre la voiture, je vérifie le Waze, savoir à quelle heure il faut que je parte pour être à l'heure là-bas.
D'accord.
Voilà, mais c'est plus pratique. Et ensuite, une fois dans la bagnole, ou juste avant de démarrer, je regarde les messages, je mets en route la playlist et après c'est parti.
D'accord, ouais. Donc on va avoir la grande réponse que tout le monde se pose. Pourquoi t'étais mort? Pourquoi t'étais mort de rire?
Mais c'est ton rire en fait.
Ah bon?
Ouais, je le trouve trop.
Ah mais je savais pas. Mais je sais pas quel rire j'ai.
Mais non, mais tu sais, en fin
quel
de
rire
journée,
je possède.
En fin de journée, t'es
le
fatigué.
Rire en fin
donc,
de journée.
Le moindre truc en fait, ça te déclenche un fou rire.
Si rire, j'ai un rire entre 8h et 12h, un rire entre midi et 14h.
Vraiment, ouais, c'était hyper franc.
Ouais. Bah du coup, moi j'ai aimé ton rire aussi.
Ouais, ouais.
Ah, faut dire quand même qu'on est très fatigué.
On est mort.
Aux gens qui nous écoutent.
contre-soirée.
Voilà, grâce aux amis. Mais sinon, oui, non, le jeu, c'est de temps en temps, quand on a le temps, et qu'on, je sais pas, qu'on sort une boîte et qu'on s'y met.
D'accord, donc plutôt jeu de société.
Donc on sort en boîte. Pardon.
Oh, mais c'est fou, quoi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver en stand-up?
Alors, à la Cigale à Paris, tous les jeudis soirs, du 20h à 21h, après l'émission radio. Voilà.
Juste avant, Rémi me disait que lui, c'était le parking du Lidl.
Oui, voilà.
C'est quand?
Non, c'était moi aussi.
Moi, c'est tous les samedis de midi à midi une.
C'est ça.
Parce que le vigile, il vient après, donc
ah oui, c'est ça.
Faut partir.
Le spectateur.
Contre-soirée.
Et juste avant de passer au sujet du jour, il y a Josué qui veut faire un petit erratum.
Alors voilà, c'est mon mea culpa culture. La semaine dernière, j'ai parlé de Bellamy de Maupassant. Et on m'a fait remarquer que c'était pas Georges Mauroy, mais Georges Duroy, le personnage principal. Assez justement, d'ailleurs, cette remarque. Et du coup, ben, après avoir essayé de faire repentance pendant toute la semaine, j'ai essayé de faire repentance auprès de vous. Je me suis pardonné. Maintenant, c'est à vous, auditeurs, de me pardonner. J'espère que mon manque de culture ne portera pas
préjudice.
Pardonnons.
C'était la petite correction par rapport à mon bouton replay de la semaine dernière.
Je préfère.
Merci Grégoire.
Et que ça ne se reproduise pas.
D'accord, papa. Grégoire, pardon. Papa.
Contre-soirée.
On continue dans ce best-of de contre-soirée avec un peu plus de sérieux. Dans une contre-soirée, on rigole certes, mais on discute aussi, on parle de nous. On analyse mine de rien nos usages, notre rapport à la culture. Souvenez-vous, dans la troisième contre-soirée, on parlait d'où on venait niveau culture et dans quel environnement on avait grandi étant enfant.
J'avais pas le droit de regarder certains films. Nous, il y avait la politique du...
Donc c'était quoi chez toi?
Si vous lisez les livres, s'il y a des livres avant le film, vous avez le droit de voir le film. Ça a pas toujours marché parce qu'une fois j'ai vu Seigneur des Anneaux 1 et ils m'ont pas fait voir, donc ça m'avait profondément choqué et j'étais j'étais contre l'autorité de mes parents sur là. J'étais profondément énervé. Moi, ça m'avait vraiment énervé. Il m'a fallu une plaque de chocolat et Star Trek pour me calmer. J'étais très
colérique.
Mais vraiment, c'est une anecdote assez marrante. Mais ouais. Donc voilà, j'avais pas le droit de voir beaucoup de films et quand je m'y suis mis, j'ai vite rattrapé. Hein, mais voilà.
Mais t'as eu le choix de ce que tu regardais à quel âge? À peu près.
Mais pareil, ils m'ont toujours dit quand tu auras 18 ans, tu choisiras. Tu regarderas ce que tu veux.
Dans les faits.
Bon, en ce moment, je regarde ce que je veux, mais bon, il y a des trucs, ils cautionneront beaucoup moins que,
Bon,
certaines choses. Maintenant, ils me laissent regarder ce que je veux actuellement, mais c'était vraiment pas. Jusqu'à mes 16 ans, et encore, ils m'ont pas laissé voir beaucoup de choses. Après, ça s'est assoupli parce que j'ai beaucoup de grands frères. Ça s'est assoupli, hein. J'ai fait partie de l'assouplissement de. Ouais, c'est ça.
L'assouplissement,
À force, mais quand même, j'avais pas beaucoup de films. C'est beaucoup de dessins animés. C'est pour ça que j'adore Disney. Hein. J'ai baigné dans ça.
Moi, c'était carte blanche en fait. Ma mère m'a laissé l'opportunité de découvrir par moi-même tous les contenus culturels. Donc j'ai.
T'as une culture télé du coup?
Une culture télé, ouais.
D'accord,
exactement.
Moi, pas du tout, par exemple.
Beaucoup de dans le registre fantastique. Science-fiction.
D'accord.
Et j'ai pu en fait voguer au gré de mes envies comme ça. Donc, c'était chouette.
Contre-soirée.
Coraline, tu sais ce que tu te rappelles ce que tu lisais toi? Est-ce que tu lisais des sagas?
Alors, je suis étonnée que personne n'ait cité Tom Tom et Nana déjà.
Ah oui,
mais la base.
Et il y avait Tintin quand même.
Oui, alors on va parler de BD. On va parler des BD. On peut en parler maintenant. Les BD, Tintin, etc.
J'étais fan de Tintin et effectivement Harry Potter aussi que j'ai lu, mais j'ai adoré le lire quoi.
Ouais, moi aussi j'avais adoré.
T'es dégoûté en fait quand tu regardes les films. Quand t'as lu Harry Potter, t'es dégoûté.
J'ai l'impression que c'est un peu comme pour tous les livres en fait. Parce qu'on se fait notre propre imagination.
Exactement.
On a notre propre imagination et donc on est forcément dégoûté parce qu'on n'a pas l'imagination du réalisateur.
Contre-soirée.
Quand est-ce que sont arrivés les écrans chez vous, Bamedi par exemple?
Très tard.
Très tard
pour l'ordinateur, pour le téléphone, et on développait vraiment en fait l'imaginaire. Donc à un moment je suis resté en terminale 6 mois sans portable. Pourquoi? Parce que j'étais contre système, je voulais plus en fait les relations humaines, et je trouvais ça tellement superficiel. Donc au niveau des écrans, c'était plus la télé, beaucoup de reportages politiques, géopolitiques, des émissions, et j'ai beaucoup été abreuvé de ça. Donc,
toi, il y avait la télé qui tournait beaucoup.
Oui, mais pas soit des films de science-fiction ou imaginaire,
soit des documentaires,
beaucoup de documentaires et beaucoup de politique aussi.
D'accord, ouais. Donc moins dessins animés, divertissement.
Ouais, exactement. D'accord, sauf Dragon Ball Z, mais sinon.
Ouais, oui.
Contre-soirée.
Et vous aviez des consoles en fait, parce que là on parle des deux joueurs.
Oui,
mais... toi, ouais, Juliette, t'as joué à quoi toi?
Il y avait la PSP, il y avait la PlayStation. Ouais, ouais. Je me rappelle de la 1, de la 2.
Donc bah... tu les as eu toi dans l'ordre,
ouais.
Comme ça. Ouais.
Et après il y avait la Game Boy Advance aussi. Oh, trop bien, meilleure console pour moi.
Moi je sais même pas comment ça fonctionne ces trucs là. Moi ça me paraît.
Mais pareil, j'ai pas eu de console chez moi. Enfin j'en ai pas eu chez moi quand j'étais petit.
Nintendo 64, Xbox, Advance, Color.
Je me rappelle que mes parents, on leur avait demandé à Noël la Wii, et ils avaient dit, on avait fait tout un argumentaire en disant, mais ça développera l'esprit de famille parce que vous connaissez le principe de la Wii.
Ouais, bien
il y a la manette
et voilà. Ouais. Non, mais
et
ça
ils ont dit,
non,
mais et on leur a dit, vous pourrez limiter et tout, et puis ils ont réfléchi, puis c'est non.
Voilà. C'est
comme
non.
Ça.
Contre-soirée.
Mehdi, par exemple, est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as fait les choses sur Internet tout seul, en décidant ce que tu faisais?
Ouais, c'était avec MSN.
Avec ça, MSN.
Exactement, ouais.
Donc
quand remonte.
En quatrième.
En quatrième. Ça remonte hein, quand même.
Mais tout le monde, je crois.
Et du coup, depuis, bah, c'est devenu... Enfin, c'est une addiction, quoi.
C'est une addiction?
Ouais, c'est vrai. Je m'en sers tous les jours. Plusieurs fois par jour. Et pour tout. Et pour rien, enfin, à Internet, c'est vraiment... Ouais, c'est
surtout
un deuxième cerveau,
quoi. Surtout pour rien.
C'est fou, ouais. on sent qu'il s'en rend compte en le disant. Il y a une forme de...
Ouais, c'est ça.
Voilà, quoi. Je pense que c'est pour tous pareil. Hein.
Toi, Josué, c'est quoi ta relation avec Internet? Est-ce une relation amoureuse? Ou une relation difficile?
Comment dire? Je l'aime depuis actuellement 6 ans. Et je l'aime beaucoup. Il me sert quotidiennement. Non, en vrai, je l'utilise vraiment beaucoup, ouais, ouais. Tout le temps.
Vous écoutez toujours le premier best-of de l'émission. Dans la 9e contre-soirée, on abordait le lien qu'on a avec nos smartphones. Premier objet qu'on saisit le matin, dernière chose qu'on pose sur la table de nuit le soir.
Et du coup, je vais sur WhatsApp direct, ouais. Et après YouTube aussi.
Au réveil.
Le matin, au réveil.
Ah ouais. Mais je regarde pas de vidéo, je regarde ce qui est sorti ou ce qui est pas sorti.
Ah oui, c'est un concept.
Et alors que la nuit, rien ne se passe. Tu vois,
qu'est-ce
YouTube,
que je vais regarder aujourd'hui? Elle se fait une annonce dans
ouais, c'est ça.
Waouh.
Et les mails aussi.
Et les mails.
Et voilà.
Ouais, donc les messages perso déjà.
Et la banque aussi.
Josué.
Mais ça vous fracasse pas les yeux le matin?
Money,
vous
vous réveillez.
Ah, mais moi, le matin.
Ah, mais c'est horrible, faut que j'arrête.
Ça me détruit les yeux.
Contre-soirée.
Combien de temps vous passez sur votre smartphone par jour?
C'est privé.
Non, c'est pas privé. Parce que moi, je vais vous livrer des chiffres qui sont, enfin, pour mon utilisation, qui sont inscrits dans mon téléphone. C'est mon téléphone qui me dit combien de temps je passe.
On peut regarder.
Donc, soyez le plus honnête possible. Pas forcément regarder dans votre téléphone, enfin, ça y est, pas forcément. Mais combien de temps environ vous passez, toi, Mehdi?
À une époque, je sais, quand j'étais encore étudiant, je pouvais passer facilement 6 heures par jour sur mon téléphone, mais au-delà de la moyenne.
Oui, effectivement. 6 heures, ouais. Quand même. C'est...
Je crois que la moyenne, c'est 2 heures, un truc comme ça.
Alors, je sais pas du tout. Je suis vraiment un mauvais producteur d'émissions. J'ai pas regardé. Je sais pas.
Mais on n'est pas des experts, donc c'est compliqué.
C'est ça.
De...
Je me désoigne de vraiment aucun sérieux. Mais on n'est pas d'experts. Donc voilà.
Et là, maintenant, beaucoup moins. Ouais.
Ah. Ouais, beaucoup moins. Ouais. Donc, combien? 5?
Là, maintenant, ça doit être quoi? 2 heures, ouais, la moyenne, quoi.
Ouais, ça doit être. toi, Myriam, tu sais, t'as une idée de combien de temps tu passes? En moyenne, hein,
Alors, le truc, c'est que, est-ce que je le passe devant l'écran en le regardant, ou est-ce que j'ai branché téléphone sur quelque chose?
Je compte pas quand il n'y a pas l'écran allumé.
D'accord.
Enfin, quand tu écoutes de la musique, bon, tu pourrais très bien le mettre sur ton poste radio, ton lecteur.
Voilà, ou dans
CD.
La voiture, par exemple.
Oui,
parce
ou
que
la voiture,
beaucoup,
c'est ça.
Et du coup, c'est
durant
non,
je parle vraiment de l'écran allumé, le temps d'écran.
L'écran lui-même, je pense que je passe une heure.
Contre-soirée.
Ça m'arrive de plus en plus souvent de sortir sans mon téléphone, en dehors de chez moi.
D'accord.
Ouais. Désolé, mais comment tu fais, en fait?
Toi, tu pourrais pas, Josué?
Ah non, mais clairement, ça fait désolé, ça fait très, très, très addict, hein, mais franchement, non, je peux pas. Non. Très clair, j'en ai
mais
trop
si
besoin.
Peux...
Pour tout, déjà, je n'ai pas du tout la prétention. Alors ça, c'est tout simple, mais je n'ai pas du tout la prétention de connaître assez Toulouse pour me y aller sans GPS dedans.
Le faux Toulouse.
Je connais bien le centre-ville.
Contre-soirée.
Avant d'oublier, j'ai des chiffres pour les écrans cassés. J'ai des statistiques.
C'est le moment où Contre-soirée devient expert.
On est expert là. Attendez, je me positionne un petit peu comme ça. D'après Phone Android, qui est un très bon média pour ceux qui utilisent Android, c'est un site web. Mm-hmm. En 2017, les consommateurs ont dépensé 3,4 milliards de dollars pour remplacer leurs écrans brisés.
Ah, voilà. Dans le monde entier.
Oui, pas personnellement. Ouais, dans le monde entier. C'est pas la France, c'est le monde entier. Ça y est, faut rire numéro 2. Et pourtant, 65% des utilisateurs ne réparent pas les écrans fissurés. Donc je trouve
donc,
ça fou.
Imagine si tout le monde réparait, il y aurait encore plus d'argent.
Coraline.
Alors je pense que ça dépend aussi de quel team on est, si on est team Apple ou team Samsung. Ah. Moi je sais que le dernier portable que j'ai eu c'était un Samsung, j'ai cassé mon écran et le prix pour réparer l'écran, bah, ça a coûté en fait le prix d'un portable.
Donc, oui, c'est ça le souci.
Contre-soirée.
Pour abonder dans ton sens, c'est vrai qu'à un moment j'ai constaté que les définitions, j'ai checké sur le smartphone, je les retenais pas, je les lisais.
Après, on était là. Merde,
et je suis revenu à une technique de base. Quand je suis chez moi, j'ouvre le dictionnaire. Et le cheminement que tu fais pour trouver le mot, tu retiens la définition. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a deux différences.
Mais c'est papier. Ouais. C'est beaucoup plus.
Aussi. Mmh. Ouais, c'est comme palpable avec la
Big up à Robert, Larousse, etc.
Ouais.
Dans Contre-soirée, on a déjà parlé à deux reprises de notre rapport à l'actualité. Alors, comment on s'informe, pourquoi et dans quel cadre? On abordait le sujet dans la 7e Contre-soirée.
Contre-soirée.
Après, il y a actualité et actualité. Il y a une actualité que j'aime. Et
oui, alors qu'est-ce que c'est l'actualité que tu aimes, l'actualité que tu...
Bah, par exemple, moi, tout ce qui est relations internationales, géopolitique...
Ça, tu aimes ou tu...
Ouais, ça, j'adore.
Tu te détestes. J'adore. Non, tu adores.
Et aussi, tout ce qui est politique, en général.
D'accord.
Tout ce qui est national, tout ce qui se passe à Toulouse aussi, tout ce qui est sur la politique de la ville, etc.
Donc,
ça,
l'actu local, ouais.
Ouais. Par contre, je vous avoue qu'il y en a qui adorent... ce qui est par exemple l'actu people.
Mm-hmm. Toi non. Tu peux le dire.
Ça
hein.
Ne m'intéresse pas du tout. Vraiment.
Nul.
Vraiment. Ouais, voilà. Ça ne m'intéresse pas du tout. Paris Match, c'est pas pour moi. Désolé, je le cite.
D'accord. On salue Paris Match.
Cela dit, moi, je fonctionne un peu bizarrement parce que quand l'article m'intéressera, je suis unique. Et, ou pas. Et donc, du coup, je cliquerai de toute façon si l'article m'intéresse. Le titre, je veux dire. Par contre, si le titre m'intéresse, enfin qu'à moitié ou un peu moins, soit je passerai, soit je vais aller regarder, parce que souvent il y a des titres qui sont de toute façon accrocheurs, je vais aller regarder les commentaires
les
en
commentaires,
dessous,
j'allais le dire.
Et là ils vont me dire, ouais. Là ils vont dire ouais le titre est mensonger, là je vais avoir envie de cliquer parce que je saurais que c'est un mensonger.
Ah mais là les commentaires sur internet c'est...
Et je sais que les commentaires sont faux aussi, ouais. La plupart du temps beaucoup sont faux aussi, mais ce qui est intéressant c'est de voir la réaction des gens parce qu'au premier abord on peut comprendre de quoi parle l'article, etc. Et ce sera même peut-être plus intéressant que l'article lui-même qui sera très court parce que je serais pas abonné donc je verrai 5 lignes et ça sera coupé et du coup bah, je passe parfois plus de temps sur les commentaires que sur l'article lui-même donc moi je trouve ça c'est intéressant, les commentaires, les réactions des gens, je trouve ça intéressant.
Contre-soirée.
Une autre réalité de nos jeunes générations, c'est la vidéo sur Internet, YouTube en tête. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Présence. Ce soir, dans ce premier best-of, voici quelques extraits du 6e épisode de l'émission.
Contre-soirée.
Donc toi, tu regardes de la télé, enfin
ouais,
des...
sur YouTube,
voilà.
Et pas à la télé.
Et pas à la télé, voilà. Parce que t'as pas à la télé, j'imagine.
Ouais, voilà.
Et puis comme ça, tu choisis ton horaire, ton
ouais,
moment.
Ouais, c'est ça.
Et ça,
puis,
c'est hyper cool. Hein. Moi, je trouve
et
ça
tu peux regarder sur le téléphone, sur... Fin... C'est super.
Franchement, les chaînes de télé qui mettent l'intégrale d'une émission sur YouTube, je pense qu'elles ont tout
c'est
compris.
Top,
hein.
Ouais, exactement.
Mmh. Après, Arte, ils en font quelques-uns
aussi. Ouais.
Mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne en fait, c'est comme ça que ça évolue la télé. Ouais. Tu peux plus juste faire une émission à la télé et espérer que. Enfin. Bah, espérer que ça passe si c'est pas sur YouTube au minimum un petit peu quoi.
Ils ont une certaine audience qui reste, qui est là. De gens plus âgés ou alors plus spécialisés, par exemple BFM Business, bah, c'est des gens qui sont intéressés par les cours
de
la bourse.
Ou des horaires.
Mais,
ou des horaires. Les émissions à horaires. Ouais. Enfin, je pense à Télématin sur France 2. C'est une émission très.
C'est le matin.
C'est le matin, quoi. Ouais. Donc,
oui, c'est le rendez-vous. C'est comme.
C'est les gens regardent et ça passe pas sur YouTube. Mais c'est normal, c'est comme une matinale à la radio. Enfin,
c'est télé, radio traditionnelle, il y a. Traditionnel, c'est pas péjoratif, c'est le,
c'est
le média
base.
Traditionnel. Il y a le truc du rendez-vous quoi, qui est vachement important. Mmh, ouais. Mais c'est intéressant parce que sur YouTube, il y a pas cette mode, mais j'ai pas le mot qui me vient, mais il y a la notion de rendez-vous qui revient un petit peu. McFly et Carlito, ils donnent un rendez-vous à leurs abonnés, c'est tous les dimanches matin, vous aurez une nouvelle super vidéo qui durera 30 ou 40 minutes et vous allez vous fendre la poire. Et voilà.
Contre-soirée.
Alors moi, la majorité, c'est de la musique.
Ah oui.
Et du coup, je fais défiler, je cherche l'artiste que je connais pas encore. Parce que forcément, j'en ai 10 ou 15 que je connais déjà. Donc je suis là, bah merci, mais en fait, je voulais trouver autre chose. Et ensuite, c'est les trailers, donc les bandes-annonces, des films à venir. Ça, toutes les semaines, je pense que je me fais un petit récap de ce qui va arriver. Mais souvent, je vois les trucs bien avant que ça sorte au cinéma en France, parce que c'est déjà des trailers qui viennent directement d'Amérique ou je sais pas, d'ailleurs. Quoi. Ouais. Après, beaucoup d'humoristes.
Ah oui, donc des extraits, des stand-up extraits. Qui sont filmés, quoi.
Oui, c'est ça. Ou alors des chroniques, par exemple, de La Drôle d'Humeur. Il y a Marina Rollman, Guillermo Guise, notamment. Guise, je sais pas comment on dit, désolé. Après, le Montreux Festival aussi, le festival de Montreux, du coup.
Ah, je regardais tout.
Avec les petites miniatures, les petites vignettes jaunes, là.
C'est ça. On demande qu'à en rire aussi. Ruquier, l'émission de Ruquier qui est terminée. Quelques tutos, mais vraiment plus c'est très ponctuel. Ouais.
J'allais dire Ruquier qu'on salue, qui est un collègue parce qu'il fait de la radio. Plus les gens qui font de la radio, je les salue.
Mais ouais.
Donc beaucoup de choses.
Du sport.
Ah oui, aussi.
Et là, je peux regarder du surf pendant des heures.
Du surf ?
Ah ouais.
Énorme.
Ça, c'est le truc.
C'est trop stylé.
Les sports d'action en général. Ouais, les compètes, les vagues les plus impressionnantes, je sais pas. Voilà, très peu de web-séries.
Très peu de web-séries.
Un peu, mais
il y a peu de fiction sur YouTube en proportion.
Ça commence quand même.
Surtout en France.
Contre-soirée.
De plus en plus sur YouTube, c'est aussi une plateforme de live, de direct. L'autre jour, enfin il y a quelques semaines ou mois, j'ai vu décoller une fusée en direct. Oh. C'était un projet d'Elon Musk.
Je l'ai regardé aussi.
Et c'est fou quoi, on est en 2019 et on voit une fusée décoller en direct. C'était un essai, c'était pas Apollo 11 ou quoi, mais c'était incroyable. <11.
rire> Ouais, tu as dit le premier nom de fusée.
T'imagines les gens en 1969, premier pas sur la Lune. Ça. S'ils avaient eu YouTube, quoi, ils auraient pu regarder.
Contre-soirée.
C'est un vrai métier, en fait, d'être YouTuber. Mais je pense que les contenus amateurs, ça fera toujours des millions de vues, quoi.
D'accord. Donc tu penses qu'il y a toujours la même place pour une vidéo qui est mise comme ça, gratuitement.
Spontanée, ouais, voilà.
D'accord. T'es du même avis, Josué ?
Pas du tout.
Non, c'est ça. Toi, tu es dans la team oui.
Oui,
l'amateurisme, c'est mort, oui.
Je suis dans la team oui, parce que pour moi, l'amateurisme... Enfin, les vidéos de 30 secondes où on voit un chat, c'est super marrant et il y en a plein sur YouTube. Mmh. Mais elles ont fait énormément de vues dans le passé. Aujourd'hui, quelqu'un qui en publie une, elle fera rien sur YouTube. Elle fera rien et elle sera pas... Parce que c'est vu, revit, et etc. sur YouTube. Par contre, l'amateurisme, il prend sa place ailleurs. Moi, je pense qu'il a disparu de YouTube.
D'accord.
Mais qu'il va sur Facebook ou qu'il va sur les réseaux sociaux. Et d'accord. Là, il apparaît. Mais pour concernant YouTube, non. Je pense que maintenant, il faut soit être connu, soit... être en relation avec des gens connus ou s'être déjà lancé. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui s'est lancé sur YouTube, désolé pour tous ceux qui le font, c'est vraiment c'est presque méchant ce que je vais dire, parce que
vas-y, sois
les
méchant.
Pauvres. Mais tous ceux qui se sont lancés après 2015-2016 sur YouTube, pour moi, n'ont aucune chance, ou en tout cas il faudrait qu'ils mettent 20 ans au moins à arriver à un niveau qui leur permettait de vivre correctement de YouTube. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que des gens comme Squeezie, Cyprien, bon là c'est les plus gros hein, évidemment, qui ont 13 millions d'abonnés, se sont lancés il y a très longtemps, mais même les plus petits comme l'Opérave, c'est parce qu'ils connaissent des gens connus comme McFly, Galito ou tout ça, qui se sont lancés sur YouTube. Donc soit on a le réseau, soit on a le l'expérience, hein, l'acquis de l'ancienneté. Mais maintenant tout le monde, enfin beaucoup connaissent YouTube, beaucoup connaissent ont déjà leur liste de YouTubers qu'ils regardent, et c'est très dur, c'est très dur, d'accord. Je pense, de se lancer sur YouTube.
Ça, c'était Josué qui nous parlait de sa vision de YouTube dans la 6e contre-soirée, et quelques semaines plus tard, c'est de messagerie instantanée dont il était question. Le best-of continue.
Contre-soirée.
J'utilise Snapchat, Messenger, vraiment, ça c'est mon top 1.
D'accord.
Après, appel SMS, WhatsApp un petit peu, et Insta parfois aussi. Instagram par message, d'accord. Aussi, j'utilise. Et sinon, c'est à peu près tout.
Donc Messenger en premier. Snapchat, tu le mets où ? Tu le mets en deuxième ou tu l'utilises vraiment beaucoup
Top avec Messenger, vraiment. Messenger et Snapchat, c'est vraiment d'accord, en permanence.
Ouais. Et c'est pour tout le monde ?
Non, j'ai des cibles.
Ah oui, alors ça, c'est intéressant.
C'est en fonction des personnes. En gros, certaines personnes. Disons que Snapchat, il y a la possibilité de faire des vocaux ou des vidéos inutiles.
C'est vrai.
Donc je fais les deux avec des personnes sur Snapchat, certaines personnes, certains amis, et d'autres, je vais sur Messenger. Là, Messenger, c'est beaucoup pour les groupes de classe, groupes à la fac, groupes de la promo, petits groupes, etc.
Pour s'organiser.
Et aussi, beaucoup de mes amis où on a des groupes d'amis, ou alors certains de mes amis qui utilisent Messenger où je sais qu'ils vont répondre directement et donc je leur envoie sur ça. Et sinon, SMS pour certaines personnes. Mon frère, j'utilise WhatsApp parce qu'il est à Prague, donc on utilise WhatsApp. Ouais.
Ça, c'est très utile
pour
le coup.
Et pour la radio aussi, on utilise WhatsApp d'ailleurs.
C'est vrai, pour s'organiser.
Mais voilà, donc du coup, à peu près tout.
Contre-soirée.
Est-ce que vous utilisez, on va faire un petit bilan encore de notre rapport aux conversations pour les auditeurs, est-ce que vous utilisez les smileys? Parce qu'on parlait tout à l'heure du mood, de l'état d'esprit dans les messages vocaux, on a le ton de la voix. Avec les smileys, on a un certain ton aussi.
C'est génial.
C'est un grand débat, on peut en parler des heures. Est-ce que vous utilisez les smileys? Est-ce que ça vous arrive de vous tromper sur ce que vous comprenez de quelqu'un d'autre? En régie, on peut aussi réagir. Est-ce que vous utilisez ce genre de smiley? Par exemple, Myriam, t'en mets, toi, dans tes SMS ou sur WhatsApp?
Oui, j'en mets. Mais alors déjà, il y a déjà l'étape, est-ce que tu mets de la ponctuation, genre un peu expressive?
Ouais.
Moi, je sais que mon frère en met absolument pas. Et du coup, on a tout le temps l'impression qu'il n'a rien à faire.
Bonjour.
Alors que c'est pas spécialement le cas, ouais. Mais il a un côté assez neutre.
Plaque de marbre par SMS.
Ouais, c'est ça. Et
porte de prison.
Et moi, je sais que je mets déjà pas mal de points d'exclamation, ouais, de forme. Ce genre de choses, et des smileys. Et mon père, il en met, c'est drôle parce qu'il en met 3 ou 4 à la suite. Et du coup, ça exprime des choses qui, ça se complète pas mal en fait. Ça permet d'avoir une idée du mood, mais assez décrit quoi.
Sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que t'en utilises combien de smileys?
Moi, j'en utilise. Moi, j'en mets un seul déjà, et j'en utilise peut-être 3 dans le message.
Alors, j'en mets plusieurs, moi, j'en mets.
Oui, mais moi aussi.
Mais et voilà, mais il y a différentes manières de l'utiliser. Quoi.
Mais ça enrichit le texte. Moi, je trouve que ça enrichit le texte quand les deux personnes sont d'accord, enfin, se comprennent mutuellement.
Contre-soirée.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans Contre-soirée. Vous venez d'allumer le poste ou de changer de station. Nous ne sommes pas en direct ce soir, mais vous tombez en plein dans le premier best-of de l'émission qui recense les meilleurs moments de ces derniers mois. Et à côté des sujets les plus évidents comme notre rapport aux écrans, à Internet, à YouTube, on a aussi parlé de jeux. Absolument, de jeux.
Contre-soirée.
Eh ben, j'ai jamais encore joué à des jeux de stratégie.
On va jouer ensemble comme ça.
Il y en a de très bons.
Allez.
Très bons. Même sur plateau, moi, je me souviens quand j'étais petit, c'était le risque.
Arrête, me lance pas dans ça. Le classique.
Le richesse du monde aussi, un tout petit peu.
Ah, richesse du monde, ouf.
On doit être vraiment un capitaliste. Le capitaliste des capitalistes, c'est trop bien.
Stratégo aussi.
Stratégo.
Colon de Catane, tout ça.
Exactement.
Les aventuriers du rail aussi.
Ah, les aventuriers du rail, ouf.
RAIL, juste pour dire, c'est un train.
Oui, oui.
Moi, au début, j'étais. C'est de la musique ou bien. Comment ça se passe?
Les aventuriers. Oui, il y a plusieurs sens, effectivement.
Contre-soirée.
En gros, c'est quand t'as cité la démarche proactive, en fait.
Ouais.
J'ai l'impression que la profusion de plateformes nous fait rester dans un état de latence où on est là, on consomme, on attend que ça vienne à nous.
Ouais.
Alors que justement, la démarche proactive où on se met en quête de nouvelles contrées, de nouveaux challenges et tout, ouais, c'est hyper intéressant.
Et donc tu trouves que le numérique, ça nous freine là-dedans ou ça nous encourage?
Ça nous freine, ouais. Ça nous freine. Parce qu'en fait, on est diverti par trop de choses.
Ouais.
Avant, je m'en souviens, quand il y avait des jeux vidéo, j'étais concentré sur une seule plateforme, tu vois, un seul jeu, Halo et tout. Et là, j'ai l'impression que le fait d'avoir mes différents points, ça éparpille notre concentration. Enfin, on s'égare.
Le fait qu'on s'égare, qu'on s'éparpille, qu'on soit pris en haleine par plein de choses au même moment, c'est un sujet qui revient souvent dans la bouche de Mehdi. Dans la 10e contre-soirée, qui avait comme thème notre rapport au temps, il en parlait aussi. Suite du best-of, tout de suite.
Contre-soirée.
Moi, j'aime pas en fait cette frénésie que nous impose la nouvelle technologie. J'aime bien mettre le là, prendre le temps justement de donner du sens à ce que je fais. Si par exemple je vais dans une sortie culturelle au cinéma, j'aurais fait cette démarche pour y aller et j'aurais peut-être acquis un sentiment, une émotion, tu vois. C'est tout un cheminement. Alors que en fait, quand t'as à portée de main une application qui te donne un contenu culturel, c'est tellement rapide, t'es tellement dans une démarche de productivité, faut que ça aille vite, faut que ça soit là, tu prends plus le temps de ressentir. Enfin, au bout d'un moment, je pense qu'on a une horloge en nous, je sais pas, l'horloge des émotions, et elle est complètement vrillée par rapport aux nouvelles technologies.
Contre-soirée.
Entre déjà le boulot et le sommeil, les deux tiers de ta journée qui est out. Et le reste du temps, j'ai pas le temps, je voudrais beaucoup plus regarder de films, de séries. Moi, j'aime beaucoup les séries, mais je peux pas. Je me fais des marathons de séries, mais à un moment donné, je peux pas. Je viens de finir The Walking Dead.
Ah oui.
C'est déjà bien. On en est loin quand même. Enfin, j'ai pas le temps.
Mais comme tu disais, Pulp Fiction, tu ne te souvenais plus trop. Ouais. Mais aussi, quand on voit un film ou une série, bon, déjà, on doit en voir énormément, comme on disait, mais il faut prendre le temps de s'imprégner aussi et de réfléchir, je sais pas, de comprendre le film et tout ça, quoi, ou la série.
Là, on a tous les deux un doigt pointé autour de la table, on est en train de se dire, ça, c'est intéressant, moi, je vais intervenir. Myriam ?
Oui, en gros, ce que tu dis, je rebondis juste, c'est la surconsommation. Ça m'est arrivé de faire en une soirée 3 films parce que je sais pas. Parce que c'était pas un film fou. Après, j'ai fait un film moyen et à la fin, voilà.
Est-ce que ce jour-là, t'étais enroulé comme un wrap dans un plaid et tu mangeais du chocolat?
Ouais. Tout à fait. Tu as l'image. Bravo. Et donc, c'est cette surconsommation qui fait qu'à la fin de la soirée, je me dis le premier, ça parlait de quoi déjà? Et je me dis oh là, mais n'importe quoi. Enfin, ça n'a aucun sens de. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens de faire ça. Ok, je l'ai vu, super. Est-ce que j'en ai retiré quelque chose? Alors que il y a quand même certains films. Bon, ça c'est vraiment les bons films en général ou un bon livre. On a envie de rester avec dans l'ambiance.
Ouais, et puis de s'en souvenir longtemps. Ouais. Et...
Je me rappelle que plus jeune, je m'identifiais vachement à un personnage et du coup j'avais des façons de parler ou quoi après les films. Les autres ils étaient mais tu te prends pour je sais pas qui est là.
Ah oui, tu jouais le personnage.
J'étais dans l'ambiance,
j'étais dans l'univers.
Je me plongeais vraiment dedans.
Un dernier sujet qu'on a abordé ces derniers mois dans Contre-soirée, c'est notre rapport à la lecture, au livre, au bon vieux papier. Parce qu'on le sacralise tous un peu, parce que ça nous rappelle nos premiers pas avec ce qu'on appelle la culture, parce que parfois on a du mal à finir un livre aussi. Rappelez-vous, c'était le sujet de la 11e contre-soirée.
Contre-soirée.
Pareil, vous arrivez à lire fin, comme quand vous étiez enfant, ou alors est-ce que vous lisiez déjà quand vous étiez enfant, Juliette?
Non, quand j'étais petite, je lisais pas
tu
trop.
Lisais pas.
Et
là, aujourd'hui...
Et maintenant, beaucoup plus, ouais. Ah ouais. Mais je me force aussi, mais
ah ouais. Chance. Ouais, t'as la chance d'être dans la progression.
Et t'arrives à rentrer dans une ambiance et à y rester. Enfin, par exemple, à te concentrer pendant une heure sans rien faire d'autre, sans musique, sans...
Ouais, mais faut pas qu'il y ait de distractions autour, par contre.
Ouais, c'est ça.
Donc, par exemple, si je lis avant de dormir, je coupe le wifi et tout.
Ouais.
Et je fais que lire.
Contre-soirée.
Les livres qui vont peut-être le plus marqué, je pense que c'est vraiment les bouquins qu'on nous demande de lire à l'école.
Ça c'est fou ça.
Alors ça,
à l'école.
Pour le coup, c'est pas commun parce que.
Mais alors, c'était pas forcément c'était une émotion, mais pas forcément positive.
D'accord.
Tu vois, dans le sens où, par exemple, le Père Goriot, il y a des gens qui m'ont énervé dans le bouquin, tu vois, vraiment.
elle est vénère, Myriam.
Ou dans Madame Bovary. Madame Bovary, mais elle est tellement, mais à claquer, tu vois.
Elle est détestable, oui.
La nana, vraiment, elle m'énerve. t'es débile, en fait. C'est un peu les réactions adolescentes. Et après, écoute, tu te dis, bon, ok, la nana, elle a été éduquée là-dedans, elle est conditionnée à fond et tout. Mais il y a quelque chose de... Qui ça m'a provoqué une émotion parce que ça m'énervait en fait qu'il se retrouve dans des états pareils en fait en me disant mais franchement je sais pas, secouez-vous un peu les gars. Mais ça m'a quand même marqué en tout cas. Après dans les plus récents c'est plutôt tout ce qui est je sais pas description de paysage et comment l'auteur est capable de te transmettre une émotion très forte sur la découverte de quelque chose. Du coup c'est plus des bouquins de voyage, les deux derniers je pense que c'est Séper Héros de Marine Barnerias.
Séper Héros.
Séper, parce que S-E-P-E-R pour sclérose en plaques.
Ah oui, oula, c'est très précis.
Elle est malade en fait.
D'accord.
Et du coup, elle décide de partir, bon, après des tribulations, elle décide de partir et de visiter 3 pays, un pour le corps, un pour l'esprit et un pour l'âme.
Trop bien.
Et donc c'est son récit qui est vraiment poignant. Et là j'ai pleuré, là j'ai ri, j'ai voilà. Et ouais c'était magnifique.
Myriam, Josué, Juliette, Coraline, Mehdi, avec l'équipe ces derniers mois, on a essayé de décrypter au mieux ce qui constitue notre génération. Mais parfois, il faut laisser la parole à des spécialistes, des expertes, des gens inspirés, inspirants. On a eu la chance de les recevoir dans les studios de Radio Présence, ou de leur donner la parole par la magie du téléphone. À 32 ans, 40 ans, 19 ans, peu importe, ils et elles nous ont donné leur éclairage sur les sujets qu'on a tenté d'aborder. En voici quelques extraits sélectionnés pour vous dans ce premier best-of de l'émission.
Contre-soirée.
Dans la quatrième contre-soirée, l'animateur de la matinale de Radio Présence, Rémi Souloumiac, était notre invité pour parler des liens créés par le numérique. À la tête de l'excellent podcast Culte & Geek, il est bien informé sur le sujet.
Est-ce qu'on n'assiste pas en fait à un renouveau de la vision des geeks ? Avant, les geeks, ils étaient cantonnés à... je sais pas moi, seul dans leur chambre, et maintenant en fait, ils sont devenus ultra populaires.
Enfin, c'est quoi un geek aussi?
Oui, alors, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde utilise le mot geek, et moi aussi pendant un moment, tu vois, j'utilisais à tout le temps, je disais, ah ouais, je suis geek, et puis un jour je me suis dit, mais en fait, c'est quoi être geek? D'où vient ce mot geek? Qu'est-ce que ça veut dire?
La culture geek.
Exactement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, je me suis renseigné, en fait, geek au début, ça vient de l'allemand, qui veut dire geek, et c'était les personnes difformes qui étaient dans les cirques, qui étaient dans une cage, qui servaient à attirer les gens. Ça a été repris ensuite en Amérique, ça a été appelé geek, et au fur et à mesure, comme ces cirques ont fermé, ils avaient l'interdiction de faire ça, eh bien les geeks, ce mot a été mis aux États-Unis aux personnes qui restaient dans leur chambre, ou alors qui étaient plongées dans l'univers médiéval fantastique, ou alors dans la science-fiction, ou alors sur l'ordinateur, etc. Et donc du coup, le mot geek s'est adapté à eux. Et aujourd'hui, le mot geek, il a plus trop de signification. Parce que dans le mot geek, tu vois, tu peux mettre les nerds, ceux qui sont à fond dans la technologie. Tu peux mettre, par exemple, ceux qui font du jeu de rôle, les rôlistes. Tu peux mettre les gamers, ceux qui font que du jeu vidéo.
Donc, les jeux de société.
C'est ça, exactement. Donc, tu peux être gamer sans être geek. Mais par contre, un geek peut être gamer en étant geek aussi. Donc,
tu vois, nous perds, là.
En fait, geek, si je peux résumer ma vision du truc, c'est que geek, c'est une grande maison. À l'intérieur, il y a plein de pièces. Il y a gamer, il y a rôliste, il y a nerd, etc., etc. Et être geek, en fait, c'est un petit peu avoir ouvert toutes les portes, ou quasiment toutes.
Contre-soirée.
Mais ouais, ce que vous disiez sur la manière de lire, c'est vraiment un truc qui a changé avec le rapport à l'écran, quoi.
Ouais.
Et ce fait de zapper, ce fait aussi qu'il y ait du texte derrière le texte, parce qu'en fait, c'est devenu ultra intuitif. Mais les liens hypertextes, c'est ça, finalement. Il y a du texte caché derrière le texte. Plus, c'est quelque chose que je voyais dans mes cours d'humanité numérique.
Parlons-en maintenant, l'avènement du texte numérique, parce que moi aussi je me le suis noté, bien sûr, pour le mentionner forcément une fois dans cette émission, sans le texte, il n'y a pas d'informatique, c'est vraiment du lien hypertexte à
exactement.
La base
c'est vraiment du code. Ça. C'est même à la base du texte binaire, qui est ensuite du texte de programmation, qui est ensuite du texte d'affichage. Donc tu as au moins trois niveaux de texte, dont deux que tu ne peux pas lire, que tu ne peux pas comprendre la plupart du temps.
C'est ça. Le binaire et la programmation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas moins de textes à notre époque.
Il y en a même beaucoup plus, mais on ne peut pas le décrypter. Puis même, finalement, moi, quand j'ai répondu, évidemment, que je lisais beaucoup plus sur écran, je préfère bien entendu lire des livres support papier, mais si je fais la somme des SMS, des mails, des articles, de tout ça, finalement, je lis infiniment plus sur écran que sur, sur papier.
C'est vrai que vu comme ça,
Si on compte les SMS, là...
Voilà. Ouais, j'étais un très grand lecteur jusqu'à mes 11 ans, et en fait, ça coïncide avec le moment où j'ai commencé à avoir un vrai accès à l'ordinateur, au numérique, etc. Et où là, j'ai commencé à lire moins, à la fois parce qu'évidemment, il y a des distractions diverses sur le net, et etc. Mais je pense que c'est aussi avant tout parce que notre rapport au numérique diminue notre capacité à pouvoir lire un texte papier.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on n'est plus habitué à lire un texte ligne par ligne, mot par mot, et à s'immerger dedans. C'est plus des flashs qu'on va choper sur l'écran, qu'on va attraper sur l'écran, des titres comme ça. On en parlait de comment on zappait. C'est cette manière-là de lire sur un écran. L'écran, il est conçu comme ça. Les réseaux sociaux sont conçus comme ça. Il y a énormément d'informations. Si on lisait tout, on ne pourrait pas en fait naviguer sur le web.
On n'aurait pas le temps de tout lire de toute façon.
Exactement. Mais et c'est pas fait pour. Il y a des textes tout petits. C'est pas fait pour. À propos, copyright, c'est du texte qu'on n'a pas besoin de lire. Donc on n'est plus habitué à tout lire ce qui est sous nos yeux. C'est pour ça que c'est si difficile de lire un livre et de se plonger dedans, parce que c'est pas la même manière de lire
que
et c'est pas
le
les
web.
Mêmes mécanismes du cerveau qui sont enclenchés.
D'accord, tu veux dire qu'il y a de l'information partout, il y a du texte qu'on lit pas, on lit une partie du texte,
exactement.
Ça nous saute aux yeux comme ça.
Exactement, et c'est pour ça en fait j'en ai fait l'expérience moi-même, c'est-à-dire j'avais la théorie et j'ai eu la pratique, puisque cet été je travaillais beaucoup, donc j'étais pas beaucoup sur mon ordinateur, et mon téléphone s'est cassé.
Tu me disais ça.
Super expérience. Bon, c'était un peu lourd sur la fin, mais j'ai quand même passé un mois sans smartphone, donc avec très peu de texte sur écran. Et à un moment, je m'ennuyais dans une gare, mon train avait du retard, j'ai acheté un livre dans une bibliothèque
de gare,
chose que je pensais jamais faire de ma vie. Et en fait, c'était vraiment beaucoup plus facile de lire que ça ne pouvait l'avoir été quelques mois auparavant, en fait. Donc le fait d'avoir fait une cure, entre guillemets, ne serait-ce que d'un mois, ça a vraiment changé la manière dont j'étais capable de lire.
Celui que vous entendiez à l'instant, il s'appelle Guillaume Lefebvre. Dans la cinquième contre-soirée, il nous donnait sa vision de notre rapport générationnel à la lecture, à l'écriture, et plus spécifiquement au texte lui-même. Quelques semaines plus tard, on a eu le plaisir d'avoir l'éclairage d'une romancière de 25 ans, Juliette Baron. Autant vous dire que la littérature, c'est son élément.
Contre-soirée.
Pour l'instant, moi j'ai été éditée à compte d'éditeur pour quasiment tous mes textes. Il n'y a que Solitude parisienne, donc le tout premier texte que j'ai publié à 19 ans, c'est une maison à compte d'auteur. C'est-à-dire que c'est en fait c'est plus un organisme qui propose tous les services d'une maison d'édition traditionnelle. Il s'occupe de l'impression, de la conception du livre, de la couverture, etc. Mais il demande une participation financière à l'auteur. Donc, moi, c'était la maison d'édition et du livre. C'était une très faible participation financière pour la conception, notamment de la couverture. Après, le problème des maisons à compte d'auteur, c'est qu'elles ne se présentent pas forcément comme telles. Et parfois, les sommes sont assez astronomiques, c'est-à-dire que j'ai parfois eu des propositions où on me demandait 2000 ou 3000 euros de participation, ce qui était bien sûr pas du tout possible pour moi. Et après, j'ai eu la chance, en fait, d'être sélectionnée par Souffle Court Édition. Donc, c'est une toute petite maison d'édition qui fait très peu parler d'elle, puisqu'en fait, l'éditeur est contre tous les grands sites type Amazon, etc. Et qui, du coup, ne se fait connaître que via son site internet. Mmh. Mais c'est une maison d'édition à compte d'éditeur, c'est-à-dire que j'ai publié là-bas 4 ou 5 nouvelles, je ne sais même plus, excusez-moi.
Ouais, pas de soucis.
Mais je n'ai rien déboursé, tout a été pris en charge par la maison d'édition mon roman également. Donc j'ai commencé à être prof l'année dernière.
Ouais.
L'année dernière, je n'ai pas du tout réussi à trouver le temps. J'étais un peu surbookée tout le temps. Bon, c'était ma première année aussi, donc forcément, j'avais pas l'expérience. Et donc, j'ai pas du tout, pendant un an, j'ai quasiment pas écrit et je l'ai assez mal vécu. Donc, cette année, ma priorité, c'était de réussir à trouver le temps d'écrire. Donc, le seul moment où j'ai trouvé, c'est le matin. Je me lève très tôt et je me garde une heure au minimum d'écriture avant d'aller me préparer pour partir à l'école.
D'accord, la détermination.
en fait, c'est, pour moi, c'est juste indispensable. C'est un peu ma bouffée d'oxygène. C'est ce qui me permet aussi de prendre du recul par rapport à mon métier, puisque c'est aussi un métier qui prend quand même beaucoup de temps, et j'en ai besoin en fait pour souffler. Donc voilà.
Contre-soirée.
Le premier best-of de Contre-soirée continue avec deux journalistes parce que s'il est bien un sujet où l'éclairage de professionnels est précieux, c'est celui de l'information et de notre rapport à l'actualité. Dans l'ordre, vous entendrez Corinne Saint-Félix, matinalière à Radio Présence Toulouse, et Timothée Rouvière, étudiant en journalisme, co-créateur du journal L'Essaim et journaliste à France Bleu.
Je veux absolument te poser la question, Corinne. Est-ce que tu suis l'actualité ?
Je suis l'actualité, sauf le week-end, où là je fais la coupure totale.
Tu décroches ?
Ouais, jusqu'au dimanche soir.
Pour pas exploser.
Vendredi midi, et puis ça fait du bien, ça permet de prendre le recul et en même temps de réadapter aussi sur ce qui est important, même au niveau local, national. Non, une coupure, c'est nécessaire, me semble-t-il.
C'est sûr. Non, c'est vrai.
Oui, parce que c'est vrai que toi, tu... Enfin, j'imagine qu'on en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais c'est vrai que tous les jours, c'est tous les jours.
C'est tous les jours, c'est tout le temps. C'est parfois un peu pénible parce que on ne sait jamais quand il va y avoir de l'actu. Hein. Et puis il y a beaucoup de catastrophes aussi en ce moment un peu partout. Donc il faut être connecté et en même temps, on n'a pas besoin d'être autant que cela connecté. Donc il y a des moments où on peut se permettre des pauses et il faut prendre des pauses parce qu'en fait sinon on n'a plus du tout le recul et on n'est plus objectif dans ce qu'on fait.
On est dans le flux finalement.
Oui, et puis dans la bêtise parce qu'on est happé par ce rythme. Donc à un moment donné, c'est beaucoup plus facile de se prendre une peau de banane, effectivement, et de déraper. Donc, il faut prendre ses temps de recul. Moi, j'arrive à me détacher, mais c'est peut-être moi. D'accord. Mais effectivement, quand lundi matin, j'arrive et que j'ai 6 manifestations du week-end à présenter dans le flash, je ne peux pas rester indifférente et me dire bon, voilà quoi, ça va un petit peu. Il y a quand même une inquiétude constante sur ce qui se passe un petit peu autour.
Oui, d'accord. Ouais.
Mais là, c'est plus facile sur ces points-là de faire la distance que s'il y avait eu un attentat. On va toucher du bois pour que ça ne nous arrive pas de sitôt. Mais Toulouse est bien concernée par la question. Mais ce n'est pas le même rapport. C'est plus difficile quand on est sur quelque chose d'inconnu et de dramatique que quelque chose qui est en fait presque récurrent aujourd'hui. C'est ça, c'est triste à dire. Mais manifestations, ça va faire un an qu'il y en a tous les samedis.
Oui,
donc,
il y a plus de mouvements sociaux.
Donc, je reste sur le factuel en sachant qu'il y a des polémiques aussi autour de ces manifestations, tant d'un côté que de l'autre. Ouais. Donc moi, c'est de présenter, suivant l'information que j'ai à l'instant T, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une information évolue aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être évoquées plus tard. On va nous dire, vous ne les avez pas dites à cet instant-là, mais à cet instant-là, on pouvait aussi ne pas avoir cette information. Donc il ne faut pas oublier aussi ce rapport au plus long terme d'une information qui aujourd'hui on veut instantanée.
Contre-soirée.
On voit que en fait le problème c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se déclarent comme journalistes. On l'a vu aussi avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est des personnes voilà qui vont filmer, qui vont produire du contenu. On le voit aussi avec YouTube, les youtubeurs qui produisent de l'information. Ouais. Et avant l'information était réservée à un petit nombre de personnes, c'est des journalistes. Et là il y a de plus en plus de personnes, donc c'est vrai que qu'il y a d'autres personnes qui vont se tourner vers ce qu'on appelle d'autres médias d'information, qui vont trouver plus facilement ou qui vont plus le correspondre au niveau des idées. Mais voilà, donc une multiplication de journalistes, donc c'est vrai que le travail tend à se raréfier. Mais après, j'ai bon espoir. Moi, je pense que les gens savent aussi vers quels médias se tourner pour avoir une information de qualité et une bonne information. Ce qui est important aussi, c'est de multiplier les sources et multiplier les médias pour avoir une information vérifiée. Nous, on nous l'apprend au quotidien à l'école.
Oui, la base.
Voilà, donc ça, c'est la base. Et non, après, j'ai bon espoir. Il faut que ça continue comme ça, il faut se battre pour la liberté de la presse. Donc nous en France, on n'a pas ce souci heureusement, mais voilà, dans certains pays on sait que c'est plus délicat, mais voilà, il faut continuer à se battre pour cette information vérifiée, cette information certifiée, et surtout cette information diversifiée. Et c'est important pour des médias de traiter tous les types d'informations.
David Honora est créateur de la Movieland. C'est une affiche, un poster à placarder chez soi et qui recense des centaines de films à voir, de tout genre, de toute époque, en les organisant dans l'espace à la manière d'une carte géographique. Un petit bijou pour cinéphiles, je vous avoue. Alors dans le deuxième épisode de Contre-soirée, on l'a interrogé sur sa vision du 7e art dans notre époque.
Contre-soirée.
Le truc, un certain nombre de cinéastes, dont Tarantino, là, qui est un peu dans l'actualité parce qu'il vient de sortir son dernier film, lui, il dit que le cinéma tel qu'il a aimé est à peu près mort, quoi. En gros, à partir du moment où on arrête de faire des films sur pellicule, on fait de la télé sur grand écran, et ça m'intéresse moins. Il y a un certain nombre de cinéastes de sa génération qui pensent un peu la même chose. Moi, je suis quand même pas tout à fait d'accord avec ça, et je pense que dans le format film, le format de 2 heures, le format qui nous fait nous déplacer en salle, il y a encore pas mal de choses à inventer, et il y a encore des choses à suivre, voilà,
optimiste.
Du côté d'Ang Lee ou de James Cameron. Donc moi, je pense qu'il y a toujours des choses qui vont se faire, il y aura toujours des nouvelles générations, etc. Et en même temps, moi-même, voilà, je suis aussi de cette génération-là. Enfin, j'ai la trentaine, et en fait, je m'aperçois que je me fais un peu bouffer par les séries. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de regarder aussi parce que je trouve que la qualité est là et qu'il y a des récits,
il y a des très très beaux
même
films.
Des efforts de mise en scène, voilà, qui veulent le coup d'être vu.
D'ailleurs, si vous avez encore envie de faire plaisir ou de vous faire plaisir en ces temps de fête, David Honora a récemment sorti le jeu de société Movieland pour amateurs éclairés et cinéphiles. Alors allez faire un tour en ligne à l'adresse movieland.io si vous pensez qu'un tel jeu ferait un bon cadeau.
Contre-soirée.
La 8e contre-soirée étant consacrée à la découverte musicale, on avait invité Théo Gimeneau, co-animateur de la Midinale sur Campus FM Toulouse et fin limier en matière de musique. Une histoire d'amour avec les bonnes ondes qui remontent à l'enfance.
Bah, j'ai commencé quand j'étais petit par faire du piano. Mmh. Enfin, c'est pas moi qui ai choisi, mais enfin, ma mère m'a incité à faire du piano, elle a eu raison d'ailleurs. Ouais. Donc j'étais plutôt musique classique quand j'étais petit, entre guillemets, dans le sens où j'écoutais pas mal ça, mm-hmm. pour mes cours, etc. Et après, c'est aussi, comme pour la plupart des gens, ce que les personnes écoutent dans notre famille, nos parents, hein, c'est les premières personnes qui écoutent de la musique. Donc, c'est leurs influences qui m'ont influencé. Et comme elles sont assez ouvertes à plein de styles, j'ai pioché un peu dedans après au hasard. Et voilà.
Et après, ça a été quand le moment où tu as été ton propre programmateur musical?
Mon propre programmateur musical, waouh.
Pour ta vie. Quand est-ce que tu as choisi ta musique?
Le premier, la première fois où j'ai pioché au hasard dans la bibliothèque de mon père et de ma mère, j'ai pris un album au hasard, j'étais assez jeune, je devais être en CP, CE1, je sais pas trop quel âge on a 9-10 ans.
Ouais, un peu
plus. Par là.
7.
Non, 7.
Bon, j'ai dit à peu près.
Bon, donc j'étais assez jeune, et il se trouve que j'ai pioché un album d'ACDC, donc c'est quand même assez... quand on est petit, c'est un peu vénère.
À 7 ans en plus.
À 7 ans, ouais. Et c'était I Wait Well, et j'ai kiffé grave. J'ai kiffé grave, mais je l'ai pris comme ça venait, tu vois. Et ce qui était drôle, c'est qu'au début, je le disais, c'est pas que je le disais pas à mes parents, mais je me disais, je trouvais pas ça trop, enfin, pas adapté à un enfant, parce que la musique, je l'ai aimée, donc je me disais, c'est pour tout le monde. Et je m'en suis rendu compte après, quand j'en ai parlé à mon père, il m'a dit, mais t'écoutes ça, bon? Mais t'écoutes ça maintenant, tu vas écouter quoi quand t'auras 19, 20 ans, tu vas t'ennuyer? J'étais là, non. Et c'est vrai que depuis cet âge-là, j'écoute, en tout cas cet album, My Way to Way, je peux l'écouter à n'importe quel moment.
C'est ton gold, c'est ton classique.
Mais c'est ça, c'est mon classique ultime. Après, ce qui est marrant, c'est que quand t'es petit, t'as pas du tout la même perception de la musique ou des choses en général. Donc,
tu comprends pas forcément.
Je me rappelle pas trop comment je le recevais à l'époque, mais c'était une décharge électrique que je prenais dans les oreilles.
Ouais, effectivement.
Et quand je le réécoute maintenant, même si je le connais par cœur, je prends autant de plaisir qu'avant, quoi. Je pense que les radios associatives, elles ont cette liberté-là de pouvoir proposer des choses un petit peu originales où on peut expérimenter, qui n'est pas forcément possible sur des radios, des grosses radios comme RTL, peu importe, on ne va pas toutes les citer, Europe 1, où là, comme il y a des lignes éditoriales, il y a des choses un peu précises, c'est plus compliqué. Donc les radios associatives, pour ça, c'est génial, parce que ça donne la place à pas mal de liberté et d'expérimentation.
Et je vais te demander, est-ce que tu as un souvenir particulier de découverte musicale ou d'un genre ou quoi, ou d'une expérience dans ton histoire avec la musique qui t'a marqué et tu t'es dit là ça y est je veux me mettre à découvrir de la nouvelle musique, c'est trop bien, on peut faire des trop bonnes rencontres?
Il y en a plusieurs, après ça dépend à quelle période de ma vie, bon déjà avec ACDC comme je t'ai dit, après plus récemment avec le hip-hop on va dire, quand je me suis mis c'est surtout des potes à moi qui m'ont fait écouter le hip-hop des années 90. Et je l'ai découvert à la fois donc à travers la musique, mais c'est aussi à travers des films un peu biopiques, tu vois. Je pense par exemple à Notorious B.I.G.
D'accord.
C'est un rappeur de New York. J'avais jamais vu le film sur lui. Un ami me l'a fait voir et donc il y a toute la BO qui va avec. Donc on va dire que le hip-hop des années 90, ça m'a vraiment marqué récemment, quoi.
Et toi, comment tu écoutes ta musique physiquement sur quel support? Donc t'écoutes par internet, j'imagine, mais en radio aussi, et on n'a pas beaucoup parlé dans cette émission des concerts, etc. Tu me disais tout à l'heure que tu étais allé au Hellfest, entre autres.
Ouais, j'ai été bénévole.
T'en découvres beaucoup de la musique, je veux dire, dans la rue, dans la vie, dans les festivals, ailleurs que sur internet ou dans un casque ou.
Tu peux en découvrir. En fait, ce que je fais de temps en temps quand je peux, je me rends à des concerts d'artistes que je connais pas forcément. Après. Tu peux en découvrir, il y a plein de moyens d'en découvrir. C'est vrai qu'en dehors d'internet, c'est compliqué, entre guillemets, mais soit tu. Après, moi, je suis un petit peu à l'ancienne, entre guillemets, dans le sens où j'ai un MP3 ou MP4, je sais pas comment on appelle ça.
Ouais, mais, un lecteur.
Un Sony, mais je l'ai sur moi d'ailleurs.
Trop bien, est-ce que tu peux nous le sortir?
Il est récent, il a pas 5 ans, tu vois.
Vous aviez
les gens qui
le
voient dans la rue, ils ont peur un peu.
Contre-soirée.
La culture, elle est là. Il manque juste de l'information. Et comme tu disais, Myriam, c'est l'éducation. L'éducation, le milieu, le territoire. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de facteurs qui jouent. Il y a la culture qui est là, même la culture jeune qui est vraiment là, qui a juste besoin d'un peu de reconnaissance, à la fois dans la création, mais aussi dans l'ouverture de la culture. Et du coup, avec mon asso, c'était un peu le but. On partait du principe que, surtout à Lyon, quand on veut faire du cinéma, on n'a pas forcément une visibilité assez,
assez grande.
Assez grande, favorable et tout. Donc, notre idée, c'était vraiment diffuser le film jeune et diffuser le cinéma aux jeunes. Voilà. Donc, c'est ça
un bel objectif, l'idée.
Mais oui, c'est vrai qu'il manque cruellement d'informations pour intéresser le public Et après, je pense que c'est un long travail de longue haleine, hein. C'est une évolution des mœurs. Mais ouais, enfin, c'est. Et comme j'ai dit, les grandes villes, ça facilite pas mal le truc.
Ouais. Hein. Lui, c'est Jean-Félix Laval. Jean-Félix a co-créé le LIF, c'est le Festival du film jeune de Lyon. Rien que ça. Dans la 13e contre-soirée, il nous donnait sa vision de l'accès à la culture, vaste sujet. Ce premier best-of touche à sa fin, il me semble normal de le clore en parlant de radio, de podcast, d'audio parlé en somme. Celui qui nous a éclairé sur le sujet s'appelle Nicolas Sabat, animateur radio justement. C'était notre premier invité le 5 septembre 2019.
Contre-soirée.
Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est quoi le truc en plus dans le son?
C'est l'imaginaire, c'est le pouvoir de l'imagination. Alors le son seul, c'est pas forcément que de la voix, là, il y a eu le jingle, la parole à l'invité. Il y a de la musique, enfin parfois qui
oui,
pas toute la place dans ce qu'on fait, mais voilà, on habille ce qu'on dit. On parle sur des notes de musique, sur des percussions, sur certains instruments. C'était quoi la question? L'imaginaire,
ouais, c'est ça,
le pouvoir de l'imagination, de fermer les yeux, sauf évidemment quand on est au volant, et de se projeter finalement, de voyager, parce qu'un reportage radio, c'est pareil, avec aujourd'hui un iPhone ou ce qu'on appelle un agra, un petit enregistreur de poche qui tient dans un sac à dos. Ça permet de prendre du son. Et je pense que on réussit notre boulot quand on fait découvrir et partager des saveurs, des odeurs, des goûts, tout ça à travers les oreilles des gens. On parle et on transmet du son aux oreilles des gens.
Contre-soirée.
Cette compilation des meilleurs moments de contre-soirée touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. Toute l'équipe et moi-même en profitons pour vous remercier de faire partie de nos auditeurs. Merci à vous de rendre cette aventure possible. Merci pour vos retours, vos messages, vos critiques. Et avant de se quitter, je vous redonne les quelques informations pour nous contacter. Si vous voulez nous proposer un thème d'émission, intervenir comme invité ou juste nous envoyer un peu d'amour, c'est possible sur nos réseaux sociaux. Notre pseudo, c'est CTR Soirée, un peu partout, Facebook, Instagram, Twitter. On lit aussi nos mails et on y répond. L'adresse, la voici, ctrsoirée@gmail.com, tout simplement. Et puis les messages, c'est bien beau, mais le contact humain, c'est encore mieux. Si vous êtes à Toulouse, sachez qu'il est tout à fait possible d'assister à l'émission tous les jeudis de 19h à 20h depuis les studios de Radio Présence. C'est au 4 rue des Feuillants, métro Saint-Cyprien. Il suffit juste de nous prévenir un petit peu avant. Le jeudi 2 janvier 2020, l'émission reprend en direct à la radio et sur Twitch, avant d'être disponible partout sur Internet. Merci encore d'avoir écouté le premier best-of de Contre-soirée. Nous, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Rendez-vous tous les jeudi de 2020 à 19h. À très bientôt.